RFI, 8h42 à Paris et à Bangui dans une poignée de secondes. Le sport suivi de notre reportage Afrique. Je vais y arriver. Nous sommes en Côte d'Ivoire ce matin. Et puis Afrique Économie et le choix musical de RFI à 8h52 ce matin. Allemand Memela. Antoine Grenier du football pour commencer. Les éliminatoires de la CAN 2025 ont donc pris fin mardi. 24 qualifiés pour la compétition et la Guinée n'en fait pas partie.
Le Sili National battu par la Tanzanie n'ira pas à la Coupe d'Afrique pour la première fois depuis 2017. Immense désillusion, mais finalement la conclusion d'une année 2024 très mouvementée pour le Sili et le football guinéen en général. Tierno Yadialo.
Le quart de finale à la CAN en février avec en prime la toute première victoire à élimination directe avait pourtant fait renaître l'espoir et serré sur le gâteau une qualification aux Jeux Olympiques de Paris, la première depuis 1968, semblait annoncer une parenthèse enchantée pour le football guinéen début mai. Mais l'été parisien n'a apporté que grisaille dans le ciel d'un football aux nombreuses incertitudes. Éliminé des Jeux avec 3 défaites en autant de rencontres, Kaba Diawara et tout son staff qui officie aussi avec la sélection des U23 ont été limogés. Un directoire composé des 4 techniciens est nommé pour conduire les éliminatoires de la CAN 2025 et la fenêtre de septembre est désastreuse avec 2 revers face à la RD Congo et à la Tanzanie. Nouveau rebondissement, Charlie Paki quitte le navire et Michel Dussier, jusque-là coordinateur, prend les commandes. 3 matchs et 3 victoires plus tard, la Guinée se repositionne à la deuxième place, mais la défaite face aux Taifa Stars est venue rappeler la fragilité du système. Éliminé de la CAN des grands, mais aussi de celle des U17 et des U20, aucun club n'a entre-temps réussi à se qualifier pour la phase de groupe des interclubs de la CAF cette année. Seul et unique espoir désormais, les éliminatoires du Tchad où le Sili local doit jouer contre la Guinée-Bissau en décembre. L'année 2025 pourrait être celle de tous les risques et de tous les défis pour la Guinée, avec une question fondamentale. Michel Dussier va-t-il continuer avec le Sili National? Tierno Diallo, Conakry, RFI.
Et la toute petite consolation de la Guinée, c'est finalement la deuxième place de Serou Guirassy au classement des buteurs de ces éliminatoires de la CAN, avec 6 réalisations.
Chez les dames, la Confédération africaine de foot remettra le 16 décembre prochain les CAF Awards à Marrakech et les identités des 10 nommées pour le prix de meilleure joueuse ont été révélées.
Avec une favorite, la Zambienne Barbara Banda, 12e du dernier Ballon d'Or féminin. Tabitha Chawinga, la Malawite de l'Olympique Lyonnais, est également dans la liste, contrairement à la triple tenante du trophée, la Nigériane Assissa Toshoala.
En Côte d'Ivoire, les répliques du séisme subi par le monde du taekwondo se font encore sentir.
La fédération ivoirienne a annoncé le mois dernier la suspension de ses activités sur décision du ministère des Sports. Décision qui fait suite à des accusations de harcèlement sexuel portées par des athlètes mineurs contre un entraîneur national. Un coup dur, reconnaît Cheikh Cissé, champion du monde 2023 et premier champion olympique ivoirien. C'était à Rio en 2016.
C'est vraiment triste, mais voilà, l'African Taekwondo Union, dont je suis moi-même membre, a pris des dispositions. La justice fait son travail. Voilà, on attend les résultats pour quand même prendre des sanctions très fermes. Mon message, c'est que cela ne se reproduise pas parce que il y a que les athlètes qui perdent et en tant qu'athlète, je suis encore athlète, j'ai l'intention d'aller à Los Angeles et j'espère que cette crise-là va très rapidement se régler et que le cours des compétitions, le cours de la vie normale de la fédération continue.
Cheikh Cissé, dont l'interview par Bruno Faure est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube de RFI.
Et c'était le journal des sports signé Antoine Grenier sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Au Mali, Choguel Maïga, limogé, on l'a appris hier soir. Le désormais ex-premier ministre de la transition avait émis ce samedi des critiques contre les militaires au pouvoir, leur reprochant de ne pas assez l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections, devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Après avoir envoyé pour la première fois ce mardi des missiles à longue portée américains en territoire russe, hier, mercredi, l'armée ukrainienne a fait de même avec le Storm Shadow, un missile britannique également de longue portée. Kiev ne confirme pas ce tir à ce stade. Les États-Unis qui, hier, ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un cessez-le-feu à Gaza, un texte qui réclamait une trêve sans condition ainsi que la libération de tous les otages. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce matin la mort de 22 personnes tuées dans la nuit par une frappe israélienne à Gazaville, selon selon des sources médicales qui font également état de dizaines de morts dans une autre frappe nocturne sur le nord du territoire. Et puis la COP29, la fin, c'est demain soir. Les pays en développement ont à nouveau dit hier avoir besoin d'un chiffre et déploré le silence radio des pays développés, particulièrement de l'Union européenne.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, la lutte contre la déforestation est une priorité nationale. Ça a d'ailleurs été rappelé pendant la COP29 de Bakou. Le pays a pour objectif de restaurer son couvert forestier jusqu'à 20% de son territoire d'ici 2030. Pour cela, les autorités luttent activement, notamment contre les cultivateurs installés illégalement dans des forêts classées, des aires protégées et des parcs nationaux. C'est le cas de la forêt classée de Boisflay dans le centre du pays. Benoît Almeras s'y est rendu, là où la Sodéfor, la société d'État chargée du développement des forêts, a commencé à évacuer ses planteurs auparavant tolérés. Reportage.
Des deux côtés de la piste qui nous emmène, la forêt n'est en fait qu'une succession de plantations, des cacaoyers, des EVA, des bananiers. Ces parcelles, Guessant Kwame y travaillait depuis ses 14 ans. Il y a deux mois, les gardes forestiers ont détruit sa maison.
C'est une maison de 6 pièces.
Vous avez habité là pendant 50 ans ?
50 ans. Mais moi, je suis venu le 14 juillet 78.
Guessant était le chef de Deux Côtes, un petit village réduit à un amas de gravats et de tôles froissées. Seul vestige, une pompe à eau installée il y a 4 ans avec l'aide du Conseil Café Cacao. Guessant Kwame dit avoir tout perdu.
Aujourd'hui, bon, on a notre activité tout arrêtée. Ça fait au moins 2 mois, je ne gagne plus même un centime.
Deux Côtes fait partie d'une douzaine de campements rasés mi-septembre. C'est également le cas de Tengue Kofikro, où se trouvait une école primaire. Pour le moment suspendu, l'opération de la Sodéfor est rejetée par Constant, l'un des planteurs.
Notre zone là, c'est une zone il y a longtemps ici. Déforestation, il y a longtemps les parents ont fait ça. Les parents avaient planté avant, et comme ça, séché, on entend replanter, sinon il n'y a même pas de forêt. C'est pas forêt, c'est des jachères.
Sur les images satellites, une quarantaine de campements constellent la zone classée de 20 300 hectares. De la simple baraque au petit village de 60 cases, ces installations sont entourées de parcelles cultivées. Pour la Sodéfor, les planteurs déciment les restes de forêts naturelles et les parcelles reboisées. Une cinquantaine d'agents ont été déployés pour évaluer, entre autres, les surfaces déforestées. Le lieutenant Salim Konaté gère la forêt au nom de la Sodéfor. Lui souhaite que l'évacuation aille jusqu'au bout.
Donc aujourd'hui, la forêt classée de Boisflay est dans un état très alarmant. L'année dernière, en 2023, nous avons fait 300 hectares de reboisement. Mais après la mise en place de ces reboisements, ils sont allés décimer tous les 300 hectares de reboisement. Ça fait toujours mal, ça fait toujours mal. Parce que s'il n'y a pas la forêt aujourd'hui, on fait comment ? Il n'y a plus de vie s'il n'y a pas de forêt.
D'ici 2030, la Côte d'Ivoire a pour objectif de reboiser 100 000 hectares de son territoire par an. Benoît Almeras, beau nom, RFI.
Premier épisode d'une série de reportages à retrouver sur notre site RFI.fr. Et puis au Nigeria, c'est une façon de peut-être faire perdurer les cultures malgré les phénomènes météo extrêmes et le réchauffement climatique. En janvier dernier, le gouvernement avait approuvé la commercialisation de variétés OGM de maïs, niébé, coton et soja. Et pour suivre la première récolte de maïs transgénique d'un agriculteur, notre correspondant Moïse Gomis s'est rendu à Souledja, dans le centre du Nigeria, pour Ifrek Economie.
Babayola observe ses ouvriers agricoles. C'est la récolte du maïs transgénique semé en juin dernier par cet agriculteur. Pour la première fois, Babayola cultive des OGM, alors il scrute chaque geste pour éviter les pertes, car investir dans le transgénique coûte cher.
J'ai acheté 20 kilos de maïs Stella pour 86 000 naira. 20 kilos de semences traditionnelles, cela doit valoir entre 28 000 et 30 000 naira. Je ne sais pas comment ils peuvent rendre abordable le maïs OGM pour que tous les agriculteurs puissent y avoir accès. Le maïs Stella est en vente, même s'il est difficile à trouver. Si vous ne le commandez pas, vous ne l'obtiendrez pas à temps.
Babayola a acheté ses semences auprès de l'Institut de recherche agricole de l'Université de Zaria. Créé en 1922, cet institut a notamment pour mandat l'amélioration génétique du maïs, du niébé, du sorgho ou encore du coton. Directeur de l'IRA de Zaria, le professeur Adou Youssouf supervise en personne la distribution du maïs transgénique.
Cette année, nous commençons avec 3 tonnes de maïs Stella. D'autres semenciers privés enregistrés en reçoivent également et les vendent. Mais pour l'instant, de notre côté, il n'y a pas de stratégie commerciale définie. Vous frappez à la porte de notre institut de recherche, nous vous distribuons les graines. Nous n'avons pas l'intention d'avoir de succursale dans tout le pays.
Le Nigeria est l'un des 7 pays africains impliqués dans le projet Tella Maize, un partenariat public-privé où la multinationale Bayer Crop Science, anciennement Monsanto, permet l'utilisation gratuite de sa technologie transgénique. Mais des voix s'inquiètent de la commercialisation des OGM au Nigeria. Joss Brown, d'une fondation intitulée en anglais « La santé de Mère Terre ».
Avec les OGM, les agriculteurs deviennent dépendants des distributeurs, des fabricants de semences ou des sociétés de biotechnologie année après année pour obtenir des semences. Parce que la plupart de ces semences transgéniques sont conçues pour ne pas bien produire après la première saison de plantation. L'objectif étant de faire du profit, pas nécessairement de lutter contre la faim ou l'insécurité alimentaire.
Babayola se dit prête à racheter des semences transgéniques dès l'an prochain. Il se prononcera en fonction des résultats des ventes de son maïs. Moïse Gomis, de retour de Souledja, RFI.
Afrique Économie sur RFI à Souledja et Paris, il est 8h52, musique. Notre choix musical dans RFI Matin. Bonjour José Marinho.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de l'un des pionniers de l'afrofunk, virtuose de la guitare sud-africain, Almond Memela, dont l'album Broken Shoes, sorti en 1976, vient d'être réédité.
Oui, alors, bienvenue en Afrique du Sud, où l'apartheid a régné plus de 40 ans. Almond Memela y est né en 1936, dans un village du KwaZulu-Natal. À 20 ans, le jeune noir, victime de ségrégation raciale, travaille dans les mines, mais ne tarde pas à faire son trou dans la musique. En 1964, Nelson Mandela est emprisonné. Myriam Makeba chante.
Ah pardon, where can I go? Où puis-je aller?
Et Almond Memela pose ses valises à Johannesburg pour créer son groupe
Almost Jazz 8.
Pratiquement à la même époque, le funk engagé politiquement de James Brown arrose l'Afrique d'espoir civique porté par des rythmes endiablés. Influencé par cette nouvelle esthétique musicale débarquée d'Amérique, il a fallu attendre 1975 pour que le Sud-Africain sorte son premier album intitulé
Funky Africa. Funky Africa, c'est donc la chanson-titre de son disque qui commence à dessiner sa signature musicale, José.
Musicien autodidacte et visionnaire, Almond Memela expérimente les instrumentaux futuristes, émergence d'un son, subtilité des harmoniques, rythme imparable, son jeu de guitare obsédant atteint des sommets à l'image d'un de ses titres phares.
The Things We Do. Thank you. Mais c'est surtout son deuxième album, Broken Shoes, qui marque un tournant dans son œuvre.
Révolutionnaire pour l'époque, ce projet ne comporte que deux titres de 15 minutes chacun.
Le disque sort donc en 1976 et ce n'est pas un hasard s'il est publié sous le pseudonyme de Soweto, car c'est au moment des manifestations des étudiants noirs dans les rues de ce township contre l'enseignement de l'afrikaner à l'école.
Une centaine d'entre eux sont morts par la police pour s'opposer à la langue des colons néerlandais. En hommage aux victimes et contre l'injustice, Almon Memela soulève des ouragans de solo comme ça. Voilà, Andréan, la réédition de ce trésor de funk méconnu rend justice à ce musicien sud-africain éclairé tout en le propulsant dans l'histoire de la musique moderne.
L'album Broken Shoes d'Almon Memela, sorti de l'oubli par le label canadien We Are Busy Bodies. On écoute un nouveau titre, Pelican City. Merci José Marinho.
Merci à vous.
Mais là, c'était notre choix musical ce matin avec José Marinho et c'est ainsi que l'on se quitte. Demain, RFI Matin, ce sera avec Julien Coquel-Rohem. Merci à Jean-Pierre Pellon à la technique ce matin. RFI, vous restez dans une minute le journal de Marion Cazeneuve et ensuite à 9h10, appel sur l'actualité, Juan Gomez. Belle journée sur RFI.
Priorité Santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
tatouage et détatouage sans risque pour la santé.
Demain,
émission Questions de femmes, nous parlons de la relation mère-fille.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Maman. Le prix RFI Talent du Rire fête ses 10 ans. 10 ans que nous récompensons chaque année le meilleur humoriste d'Afrique. Mon ami, tu veux être le numéro 10 de notre équipe continentale du Rire? Tu veux recevoir ton prix le 23 février 2025 sur la prestigieuse scène du Festival Abidjan Capital du Rire, qui lui aussi fête ses 10 ans? Inscris-toi et envoie tes meilleurs textes et vidéos sur le site abidjancapitaldurire.com. Hey, bonne chance, hein!